Salut, c'est Simon, le cofondateur de Scrib. Scrib, c'est la plateforme qui te permet de collecter un maximum de feedback utilisateur pour t'aider à construire de meilleurs produits. On est hyper fiers d'accompagner cette nouvelle saison d'Epic et de vous permettre d'accélérer votre apprentissage produit. Alors à très bientôt sur Scrib, avec deux E comme Epic.
Un podcast du Média Le Ticket. L'aventure du product management racontée par celles et ceux qui la vivent. Voici notre promesse avec ce podcast qui a pour objectif de t'inspirer et te faire progresser.
Dans chaque épisode, nous explorons une histoire concrète racontée par les product managers qui l'ont vécue, comme si tu étais à leur côté, dans les coulisses. Je suis Kevin, journaliste économique.
Je suis Tanguy, product manager.
Bienvenue dans Epic, le podcast aventureux du product management.
Produit par Le Ticket.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Epic. Salut Tanguy.
Salut Kevin.
Salut Mathieu.
Salut.
Mathieu, alors toi tu es originaire de Nîmes et après des études au Gobelin, tu arrives chez France Télévisions en 2004, boîte dans laquelle tu es toujours aujourd'hui. Autrement dit, tu es un pur produit de France Télé, tu as été concepteur, rédacteur, chef de projet, chef de produit et enfin aujourd'hui, product manager à chaque fois pour l'offre jeunesse qui est, tu me le disais avant d'enregistrer l'épisode, ta passion. Depuis tout jeune, tu voulais travailler dans les contenus pour enfants. Alors pour les parents qui écoutent cet épisode, on parle de France Truc, de Touam, de Ludo et Zouzou et maintenant de Oku. Aujourd'hui, toi, tu encadres l'équipe qui développe les applis mobiles et tablettes d'Oku, soit une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'une aventure produit que tu as vécue, le lancement d'une nouvelle émission qui s'appelle Okoukou et le dispositif numérique associé. Un épisode que l'on va narrer en trois chapitres. Allez, bonne écoute.
Mathieu, du coup, France Télévisions, c'est une vieille maison, ça existe depuis plusieurs décennies. Ça a été créé, il n'y avait pas toute la partie numérique. Je crois que tu nous disais que c'est plus de 9000 personnes qui travaillent chez France Télévisions. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment toute la partie numérique s'inscrit dans ce grand ensemble qu'on connaît France Télévisions?
On est 9000 collaborateurs, effectivement, c'est beaucoup. Sur la partie numérique, donc la direction du numérique, on est 450 environ. Aujourd'hui, ça s'appelle la direction du numérique, mais effectivement, quand je suis rentré, ça s'appelait France Télévisions Interactive. ensuite, c'est devenu plutôt France Télévisions Édition Numérique. Donc, on a évolué de quelque chose qui était plutôt... de l'ordre un peu finalement de la start-up où on faisait un peu de tout à une direction numérique beaucoup plus organisée avec une culture produit qui s'est de plus en plus infusée aussi bien au niveau du numérique que dans le reste de France TV. Et aujourd'hui, c'est là-dedans qu'on évolue. Donc la direction du numérique, c'est le produit, le design, la tech, bien sûr, la data, la croissance des offres, donc le marketing et les partenariats, donc qui nous aident à tisser des liens avec tous les acteurs du digital aujourd'hui. Donc c'est tout ce petit monde qui s'occupe de toutes les activités digitales de France TV.
Et justement, pour finir la petite parenthèse d'introduction, un peu pour redonner le contexte, est-ce que tu peux nous parler aussi d'Oku, donc qui est l'offre jeunesse un peu de France Télé?
L'ADN de l'offre, c'est que c'est une offre gratuite, contrairement à d'autres acteurs du marché, sans pub, là aussi, contrairement à d'autres acteurs, sécurisée et qui s'adapte à l'âge de l'enfant, notamment sur le produit, enfin j'en parlerai, mais une des premières choses qu'on fait dans le produit, c'est de définir un âge à notre enfant et toute l'application, aussi bien l'ergonomie que les contenus, s'adaptent en fonction de cet âge pour proposer des contenus adaptés. Ensuite, il y a des cases, comme on appelle, à l'antenne, donc sur France 4, principalement, France 3 et France 5, de diffusion de dessins animés. Donc c'est disponible tout le temps sur le numérique, donc on a une application mobile, tablette, télé aussi, attention, sur iOS, Android, Amazon, on a aussi des Smart TV, on est disponible chez les FAI, donc Free, Orange, voilà, donc... c'est disponible partout. En gros, c'est à peu près ouais, plus de 8000 contenus, donc vidéos, de programmes, de dessins animés, de séries, d'émissions. Donc nous, notre punchline sur Oku, c'est avec Oku, il y en a pour tous les goûts.
Et est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Ça fait maintenant plus de 4 ans qu'Oku existe. Quels sont les chiffres clés qu'on peut retenir justement pour avoir un ordre d'idée de qu'est-ce que ça représente dans l'univers jeunesse?
Alors, ça, c'est chiffre de la com. Hein. On est la première offre jeunesse sur l'écran de télé, donc ex aequo avec le groupe M6. Regardez tous les mois par un enfant sur deux, de 3 à 12 ans. Et après, en termes, si on rentre vraiment dans le chiffre un peu pour envoyer du lourd, on est sur de 500 millions de vidéos vues en 2022. Ça fait à peu près 43 millions de vidéos vues par mois. Et sur les applications, on est aux alentours de un peu plus de 700 000 utilisateurs actifs par mois.
Donc Mathieu, je pense qu'on a posé les bases. Maintenant, les gens s'y repèrent un peu plus, j'espère en tout cas, dans l'univers de France Télé et celui de Oku. Maintenant, on va parler de Okoukou. C'est la nouvelle émission qui a été lancée à la rentrée 2022. Et c'est l'objet de cet épisode, justement. Tu vas nous raconter le dispositif associé au produit. Est-ce que tu peux justement nous raconter un petit peu comment ça se passe, le brief initial, comment est-ce que vous êtes prévenu de cette nouvelle émission, qu'est-ce qu'on vous demande de faire, etc. Enfin bref, nous dire un peu, nous parler du début de ce projet.
Et il y a 2 ans environ, il y a une volonté de France TV et de l'unité jeune public, donc c'est l'unité au sein de France TV qui travaille sur tous les contenus jeunesse, d'arriver à recréer du rendez-vous, de l'événement, et du lien avec le public, puisque c'est quand même une des missions, enfin, je veux dire, la raison d'être même de France TV, c'est de s'adresser à tous les Français et de créer du lien. Et nous, c'est ce qu'on porte sur le numérique, c'est de devenir le média de référence dans lequel on puisse s'informer, se cultiver, se divertir. Donc, il y a vraiment une volonté, en tout cas affichée de France TV, d'arriver à créer ce lien sur la jeunesse et de revenir à quelque chose qui n'existait plus, en fait, depuis un moment, en tout cas sur France TV. C'était ce qu'on appelle des programmes d'accueil du type... On en parlait tout à l'heure du Club Dorothée. Mmh. On avait vraiment des animateurs qui parlaient, qui lançaient des dessins animés et qui créaient un rendez-vous avec un point de contact. Donc il y avait cette envie et avec cette conviction que les enfants ont besoin d'être accompagnés dans leur consommation audiovisuelle et d'être stimulés. Donc c'était ça un peu l'envie initiale en tout cas du groupe et c'est ce qui a été fait avec du coup l'émission Okoukou qui est diffusée depuis la rentrée scolaire 2022. C'est donc une émission d'accueil et de divertissement. Il y a un peu de pédagogie dedans, de l'humour. C'est porté par 4 animateurs. C'est diffusé le mercredi, donc c'est un rendez-vous le mercredi. Et tous les jours sur l'appli, on peut retrouver des contenus. Et l'émission, c'est un mélange d'échanges avec les animateurs, de lancement de dessins animés. Voilà, on retrouve cet esprit d'émission d'accueil. Donc, l'ambition, c'était de faire que Oku, l'application, l'émission en tout cas, soit le point de contact avec son public, et que l'application permette d'interagir avec l'émission. Donc nous, côté produit, c'était ça notre défi, arriver à accompagner cette émission en mettant en place un dispositif participatif au sein de l'application, qui allait faire de rebond que l'application allait vraiment devenir un point central, encore plus central que ce qu'elle était avec cette promesse d'interactivité.
Ça veut dire quoi, interactivité dans quel sens? Est-ce que c'est les auditeurs pouvaient en live, je sais pas, envoyer des commentaires, envoyer des photos?
Qu'est-ce qui était de... Au moment où on reçoit cette ambition, cette volonté du groupe, c'est très flou encore. Hein. Okay. Mais ça peut aller assez loin. On imagine plein de choses. On entend des bruits de couloir. On va faire un réseau social. Il faut que ça soit le point de contact. Il y a vraiment, on sent qu'il y a une grosse ambition. Mais à ce moment-là, c'est encore très flou. Justement, au niveau du timing, peut-être je peux en parler. Ouais. On est autour de septembre 2021.
Donc un an avant.
Un an avant, voilà. On a donc cette volonté de l'unité jeunesse de créer un rendez-vous. Donc entre septembre et décembre, il y a des appels d'offres qui sont faits auprès de boîtes de production pour qu'on propose des concepts. On fonctionne comme ça, donc il y a un brief initial qui est fait et il y a des boîtes de prod qui répondent pour proposer des concepts. Donc,
vous, au produit, vous êtes dépendant de ça. Vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'avez pas, pas l'émission, le concept de l'émission au préalable.
Ouais, voilà. Nous, on est vraiment en bout de chaîne. Hein. Ouais. On attend de savoir. On sait qu'il y a une envie de participative, mais le brief, pour l'instant, on n'a rien de plus. Donc, c'est un peu vague. Et puis, nous, on a aussi plein de projets en cours. Donc, on en est là pour l'instant. Donc. En mars 2022, on a la validation du concept global. Donc, on sait que ça va être telle société qui va s'en occuper. On connaît le concept, le principe, enfin, dans les grandes lignes, quoi. Mm-hmm. Et on nous dit, objectif, parce que nous, à la télé et sur la jeunesse en particulier, on a toujours des temps forts avec des dates. Et c'est souvent les vacances scolaires. Et la rentrée, voilà, c'est un moment un peu clé. Donc là, on nous dit objectif de lancement 31 août pour la rentrée scolaire. Mais là, pour l'instant, on a toujours un concept global d'émission qui a été validé avec une ambition participative, mais c'est pas encore plus précis que ça. En avril, on arrive à avoir un mail avec une expression de besoin clair du numérique et de l'édito, pardon, avec l'envie, la volonté et les besoins autour de cette émission sur le digital. Et en mai, donc nous, là, on fait un kick-off produit. Donc ça, c'est une première étape qu'on met en place souvent sur des gros projets comme ça. Le kick-off, on réunit toutes les personnes à la direction du numérique et là, à l'unité jeunesse, on se réunit tous pour dire, voilà, là, on commence le projet. On rappelle l'expression de besoin, on passe en revue toutes les questions qu'on a, on essaie de dresser un rétro-planning, et on dit, à partir de maintenant, on y va.
Et justement, tu peux revenir sur l'expression du besoin. Qu'est-ce que c'était la feuille de route précise à ce moment-là, en mai ?
C'est principalement sur l'ambition participative, donc le fait, clairement, noir sur blanc, de pouvoir envoyer des contenus que l'utilisateur puisse envoyer des contenus via l'application, ces contenus qui puissent alimenter l'émission, au sein de l'application, les éditeurs puissent éditorialiser cette page au coucou de façon un peu plus souple dans la mesure du possible. Mais là, il y a tout qui était réuni, quoi, pour que ce soit un peu que la pression soit un peu là, une très forte ambition du groupe. C'est vraiment le projet stratégique, comme on dit dans le business. un timing serré, parce que comme je disais tout à l'heure, on était déjà en mai, on ne savait pas exactement, précisément, comment on allait faire ça. On a une émission qui elle-même est en cours de construction. Donc en fait, on a vraiment des silos qui travaillent en parallèle. Donc pour arriver à synchroniser, c'est assez compliqué. Et on a plein de parties prenantes à faire cohabiter. Donc l'unité jeune public, qui est commanditaire de l'émission, la société en charge de la production, les différents services du groupe, une société extérieure, ça on en parlera après, pour l'outil central de cette partie contributive. Donc voilà, tout était réuni pour une aventure épique.
Oui. Eh bien, on va passer au chapitre 2 pour voir comment vous avez résolu ce problème. Donc là, Mathieu, nous sommes en mai, on a bien compris. C'est les kick-off. Vous avez plus ou moins une feuille de route. En tout cas, vous avez une expression du besoin. Et donc là, l'idée, c'est de comprendre comment vous êtes mis en place, mis en ordre de bataille pour tenir cette échéance. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez fait et j'imagine que vous avez fait une place dans votre roadmap. Vous le saviez d'avance que le mois de mai, juin, juillet, ça allait être dédié à ça. Raconte-nous un peu. Qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, effectivement, on a fait de la place dans la roadmap. Déjà, on a mis un gros bloc au coucou. Et donc, on avait beaucoup de mal à macro-chiffrer. On n'avait aucune idée exactement à ce moment-là de ce que ça allait prendre comme temps. Donc on fait de la place dans la roadmap. On finit les sujets qu'on avait en cours quand même. Et on met un gros bloc au coucou. Et on commence à tout un travail d'affinage du sujet. Donc Par exemple, ce qu'on fait, c'est on fait un user journey. Donc pour arriver à matérialiser, ça c'est une super proposition de nos UX, hein, par exemple, que je salue, qui nous propose voilà, d'identifier tous les points de contact de ce qu'on a compris de l'émission, tous les points de contact que l'utilisateur pourra avoir avec l'émission. Donc il est à l'antenne, enfin il est devant sa télé chez lui sur France 4, il voit l'émission, de ce qu'on a compris, il va y avoir un appel à contribution, donc il voit ce message, alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses parents, il prend directement le téléphone selon l'âge qu'il a, il essaye, il n'a pas l'application, il l'a, il lance l'application, il ne trouve pas, il trouve. Donc, y a, voilà, ça, ce canevas, ça nous permet d'identifier tous les points de contact qu'il y a entre l'utilisateur, l'émission, l'appli, et surtout d'identifier plein de risques potentiels.
Et justement, moi, j'aimerais bien que tu prennes juste quelques instants pour... nous parler de ces utilisateurs, ces personas que vous utilisez en fait, parce que c'est hyper atypique de travailler avec des enfants, et en fait tu nous le disais aussi, tu travailles avec les enfants et les parents.
Alors on a enfants, parents, on a chez les enfants, il y en a plusieurs. Il y a l'enfant qui est vraiment dépendant, donc c'est le plus petit, le preschool, qui parfois a des difficultés de manipulation, même de l'app. C'est à partir de 3 ans, hein, pas d'écran avant 3 ans, hein, contre. Mais après, il commence à vouloir se servir de l'application, mais donc il faut que ce soit très simple, plutôt des gros visuels, de pas le mettre en échec. Donc voilà, on a plein de... On a plein d'étapes comme ça auxquelles on fait attention pour cette cible-là. On a l'enfant qui est apprenant, déjà, le kid, vers 6, 8 ans, il commence à être déjà plus à l'aise avec l'application. Il a envie de se rapprocher des plus grands. Voilà, donc il peut arriver à se servir de tout ça, mais bon, il est quand même pas ultra indépendant totalement. Et puis on a les enfants, les twins qu'on appelle, plutôt à partir de 10 ans, qui eux sont beaucoup plus à l'aise. Ils commencent ils n'ont pas le droit normalement, mais commencent à flirter avec les réseaux sociaux. Enfin, et donc ils veulent une ergonomie qui déjà s'apparente plus de choses pour les grands, quoi. Donc ça c'est pour la partie donc pour les enfants. Donc l'application elle s'adresse aux enfants, donc on prend en compte ces trois personas là. Après officiellement les parents sont censés s'occuper de leurs enfants quand même. Donc on a là aussi plusieurs personas de parents, le parent contrôlant. Donc le parent qui est vraiment derrière, qui va sélectionner les contenus pour son enfant, vérifier ce qu'il regarde. Donc pour eux, on a mis en place un tableau de bord, par exemple dans l'application, dans les réglages, qui permet de voir ce que l'enfant a consommé pendant la semaine, les types de programmes. On a un minuteur aussi qui permet de définir une durée de visionnage. Voilà, donc on lui donne des outils comme ça qui lui permettent de suivre un peu l'utilisation de son enfant. Et après, on a le parent distant qu'on prend en compte, hein. C'est le parent qui prend son téléphone et qui le dit, voilà, moi, merci, au revoir, je reviens tout à l'heure, quoi. Donc là, il faut faire en sorte, dans ce cas-là, que l'enfant ne puisse pas accéder à des contenus qui ne sont pas adaptés, ne puisse pas sortir d'application autant que possible, qu'il ne soit pas mis en échec, qu'il arrive à s'en servir tout seul. Voilà, donc on essaie de prendre en compte tous ces personas. Après, on prend aussi en compte l'utilisateur en situation de handicap, puisque l'accessibilité, c'est un point clé aussi de France Télévisions, puisque on s'adresse à tous les utilisateurs. Donc on l'inclut dans toutes les phases de conception de nos produits. Faire en sorte que l'appli soit le plus accessible possible.
Maintenant, on comprend bien le contexte dans lequel tu évolues, à la fois le contexte de l'organisation et puis le contexte de tes utilisateurs. Et du coup, là, on est en mai. Tu sais quand le 31 août, il faut qu'il y ait quelque chose d'interactif qui se passe entre l'émission et tes utilisateurs. Comment vous mettez ça en place? Comment vous dites, OK, on déroule le plan? Par quoi vous commencez?
On lance plein de chantiers en parallèle. On lance déjà un chantier. Très vite, il nous apparaît que si les gens contribuent, on va se retrouver avec plein de données personnelles. Donc, c'est un truc qui commence un peu à nous inquiéter. Donc là, on lance un grand chantier de mise en conformité. Donc, on a un service dédié à France Télévisions qui s'occupe de toutes les questions RGPD.
Typiquement, c'est quel type de contenu que vous avez peur de récupérer et...
Là, l'ambition qui est affichée, c'est qu'un utilisateur puisse envoyer des vidéos des images, du son, du texte. Donc, on se dit, nous, on va récupérer des vidéos d'enfants.
Ah ouais.
Si on veut contacter les parents avec des mails, des noms. Donc, voilà, tout ce qui est un peu touchy en ce moment au niveau de... Voilà. Donc, du coup, gros chantier conformité, donc avec notre service RGPD, pour que. Dans notre parcours, qu'on prenne bien en compte la question de l'acceptation ou pas du recueil des données personnelles, faire en sorte que ça soit conforme, que cette récolte soit bien dans les clous de tout ce qu'il faut.
Le droit à l'image, j'imagine.
Ça, c'est la partie juridique. On s'aperçoit que pour diffuser une vidéo, ensuite, parce que c'était aussi une des ambitions qui est affichée, que l'utilisateur puisse envoyer une vidéo et que s'il le consent et s'il est OK, qu'elle puisse être diffusée à l'antenne. Donc là, ça veut dire signer manuellement un document qui autorise l'utilisation de la vidéo, le droit à l'image, quoi.
Ça veut dire qu'en tant qu'enfant, imaginons que je fais une vidéo que j'ai envie que tu passes à l'antenne, il va falloir qu'à un moment je signe le fait en tant que parent que j'autorise ou en tant qu'enfant j'autorise.
Ça c'est une des questions qu'on se pose. On se dit, je suis dans un parcours, donc là je suis sur l'émission, on me dit d'aller sur l'application, j'arrive, je me filme en train de danser, poser une question, je veux l'envoyer, on me dit consentez-vous l'utilisation de vos données personnelles. Bon, déjà ça fait un premier, c'est quand même un frein. Bon, selon le niveau de maturité de l'enfant, voilà. Et ensuite, il faut signer une autorisation parce qu'on ne peut pas le faire autrement. Donc là, c'est vraiment... je ne sais pas si vous avez déjà essayé de signer un truc sur votre téléphone, mais ce n'est pas toujours... avec le livreur Amazon, parfois, ça, c'est simple, mais si on veut un truc bien carré, ce n'est pas évident. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a plein de... Il va y avoir potentiellement plein de blocages et plein de questions à prendre en compte. Donc voilà, gros volet de mise en conformité. Après, on se dit, nous, on n'avait jamais fait ça de dispositif participatif. On avait testé des choses qui étaient des petits formulaires d'envoi, mais qui étaient sur des sites web externes. Donc, c'était pas du tout les mêmes problématiques. Donc là, ce qu'on fait, c'est que l'équipe UX encore fait toute une phase de benchmark. Sur qu'est-ce qui se fait à l'extérieur, sur les autres émissions, tout ce qui permet à l'utilisateur de contribuer à une émission. Donc on prend plein d'exemples et ça nous permet déjà de nous inspirer un peu sur les parcours qui existent. Après, il nous manque quand même un petit élément, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit de la complexité en fait, déjà du parcours avec ces questions juridiques et on s'aperçoit de la complexité de toute cette mécanique d'envoi, de stockage de médias, de se filmer, etc. Et donc, bon, là, on était donc en mai, là, on doit se retrouver en juin. Bon, après, il y a les vacances d'été qui ne sont pas le moment, généralement, le plus productif d'une société. Donc, on se dit, ça commence à être vraiment
chaud. Être chaud.
Ouais. Donc, on regarde aussi autour de nous quelles solutions existent, clé en main. Donc, on identifie une société qui aussi avait été en contact avec France Télévisions. Il y a encore un autre service qu'on remercie, c'est le service innovation, et donc qui est en relation avec plein de startups françaises, qui essayent, quand c'est pertinent, de travailler avec eux, d'accompagner les startups, et nous proposer des solutions innovantes et intéressantes. Et donc, ils avaient rencontré une startup qui proposait un outil clé en main de participation comme ça. Donc, on les rencontre, on discute avec eux, on dit que ça peut être pas mal.
Elle fait quoi leur solution, juste pour qu'on arrive à se visualiser ?
Elle permet de créer une campagne, par exemple participative, donc pour envoyer des médias, vidéo, images, texte, son, ou de faire des sondages. Et le tout, ensuite, soit ils nous fournissent une API qu'on peut customiser dans notre app, soit c'est une solution qu'on peut carrément intégrer en WebView dans l'application. Donc on se dit, ça peut être pas mal, ça nous évite de reconstruire, réinventer la roue, quoi. En parallèle, il y a le chantier un peu asynchrone de l'émission qui se construit. Et donc comme je disais, là on est à peu près juillet-août, et eux, en fait, en juillet, début juillet, ils commencent à enregistrer l'émission, parce que on a 2 mois de décalage, parce qu'elle va être diffusée en août, et qu'entre temps il faut mixer tout ça, et donc début juillet on voit qu'on est, enfin on a du mal à, on est en train de fabriquer notre parcours, on sait pas exactement encore comment il va être, et eux ils sont déjà en train d'enregistrer, donc on va on peut pas leur exprimer, on peut pas leur demander de mettre exactement un écran de téléphone, par exemple, dans l'émission pour expliquer le parcours. On n'est pas capable d'expliquer clairement le parcours. Donc, on sent qu'on va perdre un peu de, d'impact avec l'émission, qui est quand même un levier monstrueux de trafic. On parlait des tests utilisateurs tout à l'heure, mais là, dans le cadre de ce grand projet au Coucou, il y a eu plusieurs phases de tests utilisateurs qui ont été commandées. Et ce n'était pas des tests utilisateurs, par contre, dédiés 100% au produit, mais des tests utilisateurs dédiés à l'émission globale. Donc, par exemple, en juin, on a eu un focus group pour choisir les animateurs, donc il y a eu une sélection un peu, voir donc il y avait des tests, des castings pour voir ceux qui étaient le plus appréciés par les enfants. Et là, nous on est arrivé juste à demander aux enfants quelle est leur volonté participative sur des émissions de ce type-là. Donc on voit qu'il y a une envie, en tout cas, d'exercer une influence sur le contenu d'émission. Et comme on voit l'étendue du chantier, on se dit que ça va être vraiment en fait très difficile de tenir les délais avec un dispositif en tout cas aussi ambitieux qu'on aimerait. On n'a pas encore tout à fait de certitude sur le taux de participation et que on peut en fait et on a procédé par étapes et assuré la promesse initiale d'un dispositif participatif. Tester la pétence et affiner notre proposition, que de toute façon on est en train de travailler, mais qu'on n'est pas en mesure de sortir là. Donc c'est ce qu'on fait, on va dire, à la fin de toute cette phase de cadrage, conception, de dire non. De dire on ne pourra pas sortir le dispositif dont on rêve. Par contre, on peut assurer la promesse pour le 31 août et les gens là pourront participer d'une façon très simple.
Et donc là, Mathieu, vous avez fait le travail de conception. On est quasiment au mois d'août et en fait, vous avez dit non à l'ambition de départ. En tout cas, vous avez dit que ça ne serait pas possible de faire tout ce qui avait été imaginé avant, et ce qu'on va voir, c'est ce que vous avez véritablement fait pour le lancement de l'émission et pour la suite. Et ça, c'est le cœur du chapitre 3. Alors Mathieu, là, on est le 31 août, c'est la rentrée. Les écoliers rentrent à l'école et vous êtes censé lancer l'émission. Enfin, vous lancez l'émission et vous êtes censé aussi poser la première brique de l'interactivité autour de cette émission. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, avec quoi vous sortez au 31 août? Et puis après, on nous parlera aussi de tout ce que vous avez fait après. Mais je te laisse nous raconter ce qu'ont découvert les premières personnes qui ont vu l'émission à la rentrée.
Eh bien, ils ont découvert qu'ils pouvaient participer en envoyant un mail à jeparticipe@okoukou.fr. Voilà, c'est solution simple et efficace.
MVP. Comme on dit.
MVP, voilà.
Cette adresse existe toujours, on peut toujours envoyer des mails à cette adresse.
Oui. Mais bon, il vaut mieux utiliser l'application aujourd'hui, parce qu'on verra qu'il y a un dispositif qui est beaucoup plus, ergonomique. Mais on s'est dit, l'émission se lance, donc elle va quand même. Il va y avoir un temps de démarrage, comme toute émission, en fait. Le temps que le réflexe soit pris par les enfants, de se dire « Ah, je peux participer à l'émission ». Même les mécaniques à l'intérieur de l'émission, qui, je rappelle, avaient été tournées quand même 2 mois avant, en pleine phase de construction, n'étaient pas encore parfaitement abouties, les messages qui étaient donnés à l'antenne. Donc, on commence avec un mail. Donc, la promesse est tenue.
Ça veut dire que si je regarde l'émission, j'ai un espèce de bandeau qui apparaît en bas. Et si tu veux réagir, envoie un mail à je veux participer à tokoukou.fr.
Ouais, voilà.
C'est ça, en gros?
À l'époque, c'était ça.
OK.
Et donc, on a un démarrage assez timide. On a quelques participations, quand même, malgré tout. Mais ça nous permet d'assurer la promesse. Alors, on a dit qu'on avait dit non, c'était un non poli. C'était non, on ne peut pas assurer le dispositif aussi ambitieux qu'on veut pour cette deadline-là. Par contre, on pourra participer avec un mail. Et nous, on continue à travailler sur quelque chose de plus ambitieux pour la suite. Donc, on voilà, on s'est mis d'accord avec tout le monde, toutes les parties prenantes, qu'on fonctionne comme ça sur les 10 premières émissions, en gros. Et on se donne un nouveau deadline, mais parce qu'à un moment, on va être obligé de se mettre d'accord. C'est-à-dire, comme il y a des émissions qui sont diffusées, qui sont enregistrées, il va falloir qu'on dise, bah, à partir de telle émission, vous pouvez mettre un message qui dit rendez-vous sur l'application. Donc là, à un moment, il faut s'engager. Donc on se met d'accord, prochain temps fort, bah, les vacances de Toussaint, donc là on sera au rendez-vous.
Les vacances, en vrai, c'est l'horreur pour toi, c'est toujours les moments où il y a des trucs qui commencent.
Ouais, c'est souvent des moments où on essaie de, parce que c'est là où il y a des pics d'audience, hein, donc on essaie d'être là au rendez-vous. Donc ça rythme notre année, comme ça, c'est sympathique. Donc on continue tous les chantiers qu'on avait initiés. Hein, donc là, on finalise la partie conformité. Donc j'en ai un peu parlé tout à l'heure. On identifie la start-up. Donc avec nos amis d'innovation, dès qu'on a la partie contractuelle, on fait toute la partie de cette partie-là. On se met d'accord avec eux. Donc nous, on est content de travailler avec une start-up en plus. Voilà, ça fait un élément de plus.
Est-ce qu'on peut donner le nom de la start-up ?
Oui, elle s'appelle Voxem.
Voxem.
Okay. Avec un outil vraiment super pour l'instant. Donc on finalise tous les parcours, les maquettes, tout s'affine. Les POC, on en a parlé tout à l'heure, qui ont validé l'utilisation de l'outil, donc ça, on est confiant. On fait une petite partie de formation quand même aussi, parce que cet outil comprend, c'est un outil à la fois front, donc l'utilisateur va pouvoir envoyer ses médias, mais il y a une partie back, qu'un back office, que cette fois-ci, la production, c'est eux qui vont prendre en charge cette partie. Nous, dès le début, on a dit, nous, on s'occupe de la partie front, par contre, derrière, toute la partie traitement des données, l'aspect RGPD, nous, on vous donne toutes les briques qui assurent le recueil du consentement, le respect, la sécurité donnée. Par contre, après, c'est de votre côté, ce côté prod, et c'est vous qui prenez contact avec les parents, parce que voilà, c'est la seule solution qu'on a trouvée au final dans ce parcours. On a une case à cocher qui permet d'accepter le recueil des données, d'accepter le droit à l'image, mais on informe que une fois le média envoyé, si la participation est retenue, la production va reprendre contact avec l'utilisateur, donc plutôt le parent, pour vraiment signer, contractualiser la partie droit à l'image pour l'utilisation dans l'émission. Donc voilà, ça c'est la partie derrière. Donc là, on fait une petite partie de formation avec Voxem de la production pour leur dire comment utiliser cet outil qu'on découvre nous un peu aussi. Hein, donc on forme les équipes. On finalise les développements, donc toujours des délais de soumission aussi, donc à prendre en compte pour être prêt pour la Toussaint. Le dispositif est validé. Vraiment, on fait une instance avec toutes les parties prenantes. On déroule le parcours et on leur dit voilà, c'est ça qu'on propose comme solution. Vous allez pouvoir envoyer des médias avec cet outil. Vous allez pouvoir faire des sondages, etc. Donc tout le monde est OK. Là, on a validé tous nos KPI de suivi qu'on va suivre par la suite. On valide la date de mise en prod et du coup, on s'était mis d'accord, mais sur la date de diffusion à l'antenne. Donc, on essaye de travailler les messages qui seront diffusés pendant l'émission. C'est pas forcément évident parce que là, on est dans un triptyque unité jeunesse, production, produit et c'est un peu chacun son métier. C'est vrai que moi, sur le produit, on s'y connaît un peu. Sur une émission, je me garderais bien de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on suggère des choses. Donc là, on commence à suggérer qu'il y a des choses qui se font de plus en plus. Et on l'a fait valider dans un test utilisateur, c'est l'utilisation d'un QR code. Un QR code, on a appris dans un test utilisateur, par exemple, c'est marrant que c'était les enfants connaissent tout ça. Pourquoi ils connaissent tout ça ? Parce que depuis le confinement, par exemple, tout le monde, ils voyaient leurs parents se balader toujours avec des QR codes sur l'appli Tous Anti-Covid. Enfin, voilà, et pour eux, c'est naturel d'utiliser ça. Nous, on ne savait pas exactement à ce moment-là si ça pouvait être utilisé dans une émission. La mise en prod se passe bien.
On est quelle date, là ?
Ça, c'était autour d'octobre, de mémoire. Enfin, c'était début novembre, les vacances scolaires à peu près. Donc, au mois de novembre, pour les vacances de la Toussaint, on déploie, ça s'appelle le Happy End, quand on déploie notre dispositif participatif sécurisé dans la POCU. Voilà, les enfants peuvent envoyer leurs contributions de différents types, texte, vocal, vidéo, image. Ils peuvent voter pour un sondage de la semaine. Donc chaque semaine, il y a un sondage qui est présenté dans l'émission, les enfants sont renvoyés vers l'appli, ils peuvent voter dessus, et la semaine suivante, c'est repris dans l'émission. Donc pareil, l'émission en fait évolue avec le produit aussi, ça qui est intéressant. Plus on offre des possibilités dans le produit, plus l'émission les utilise. On voit une augmentation de la partie sur les contributions dans l'émission, de cette mécanique. Donc c'est assez intéressant.
Est-ce que tu as des chiffres à nous donner justement par rapport aux KPI que vous suivez là, quels sont les...
Alors déjà au niveau des contributions là, donc c'était des chiffres de juin, mais on était à plus de 3500 contributions de tout type, vidéo, image, son, texte. Et le sondage vraiment a bien pris. On est à plus de 20 000 réponses au sondage. Donc, on est vraiment sur une mécanique qui on le voit d'ailleurs. Donc, c'était un peu annoncé dans les tests utilisateurs que les enfants avaient envie d'interagir avec l'émission et on voit que ça prend. Il y a un peu moins de contributions vidéo, mais quand même, ça arrive et ça se fait progressivement. Donc on a de plus en plus une imbrication du numérique et du digital. Nous, sur le produit, on suit nos KPI. Donc par exemple, on s'était fixé un objectif par exemple, de 20% de clics sur le bouton participer. Là, on en est à 15%. Donc finalement, on était à peu près... ça augmente petit à petit dans le temps en plus. Donc on suit ça, on suit le nombre de flashs sur le QR code, puisqu'on n'a aucune donnée pareil sur ce que ça pouvait générer. Voilà, donc on suit tous ces KPI et on est plutôt... l'émission trouve son public, les audiences n'arrêtent pas de croître. Et ça devient vraiment le programme emblématique de France Télévisions pour la jeunesse. Donc ça, c'était quand même l'ambition côté Unité Jeunesse qui était affichée depuis le début. Ça prend bien cette émission d'accueil avec les utilisateurs, à tel point que du coup... Donc c'était une émission qui n'était diffusée que le mercredi jusqu'à maintenant. Et là, à la rentrée, ça va être diffusé en quotidien. Donc tous les jours, il y aura du haut coucou. Et donc avec vraiment un renforcement de cette mécanique participative avec la contribution des internautes qui va vraiment alimenter l'émission et ça va devenir encore plus imbriqué.
Et une petite question peut-être sur tes enseignements de cette aventure, parce que c'était une volonté pour nous, au Ticket, au sein d'EPIC, justement, de changer un peu. D'habitude, c'est vrai qu'on donne toujours la parole à des startups ou des scale-up dans lesquels le produit est souvent au cœur de la valeur et c'est vraiment l'entreprise tourne généralement autour de ça. Là, ce qui était intéressant, c'est que justement, entre guillemets, vous êtes adossé à une émission et le métier cœur, je dirais, de France Télé, c'est la télévision. Et justement, la place du produit là-dedans joue avec les parties prenantes, évidemment. Toi, c'est quoi les enseignements que tu tires justement de ce type de projet dans lequel, on l'a vu, vous arrivez un peu en bout de chaîne et vous avez été pris de court justement par ce flux.
Nous, on est super fiers d'être arrivés à mener à bien ce projet, par étapes, mais on l'a fait. Et après, c'est quand même hyper enrichissant de travailler avec autant d'équipes et d'arriver à synchroniser autant d'équipes différentes, avec des temporalités en plus différentes entre l'enregistrement d'une émission, etc., la réalisation produit. On n'a pas des temporalités les mêmes, donc c'était un vrai défi. On travaille sur une appli pour enfants, donc... On sauve pas des vies, mais on aide quand même des parents, parfois, à supporter la garde de leur enfant, en mettant des petits dessins animés. On essaie de leur donner des outils pour bien utiliser aussi l'application, parce que les écrans, c'est difficile. Nous, on veut faire de l'audience, en même temps, on veut pas pousser à la consommation de vidéos. C'est pour ça que là, on propose l'audio, justement, qui va permettre d'offrir une expérience différente, plus stimulante pour le cerveau que la vidéo. Mais en tout cas, on donne des outils avec un tableau de bord, avec un minuteur. Voilà, donc on essaye à notre niveau de proposer une expérience intéressante à tous les Français, parce que c'est ça notre cœur de métier quand même, s'adresser à tous et à proposer quelque chose de pertinent, et rendre la vie quotidienne peut-être un peu plus... un peu plus simple, un peu plus fun.
On va s'arrêter là, je pense. Merci beaucoup, Mathieu. Franchement, j'ai passé un très agréable moment. Et je te remercie beaucoup d'être venu nous partager cette plongée à l'intérieur de comment ça fonctionne vraiment dans une entreprise comme France Télévisions, que tous les Français connaissent, mais parce qu'ils la consomment, mais peut-être pas l'occasion de vivre de l'intérieur. Donc, merci beaucoup pour ce moment.
Eh ben, merci à vous, c'était un plaisir. Puis, téléchargez l'application.
Allez, bonne journée tout le monde, à bientôt. C'était Epic, le podcast aventureux du Product Management.
Produit par le Ticket.
Et maintenant, eh bien, tu peux t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes.
Et on n'est pas là pour te dicter ta vie, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. C'est toujours sympa et ça nous aide à le faire connaître.
Allez, on se retrouve très vite pour la suite.
D'ici là, prends soin de toi.
T'es encore là ? Bon, ça tombe bien, on a oublié de te dire un truc. Si t'as aimé cet épisode, tu peux aussi t'abonner au Média Le Ticket. C'est une newsletter envoyée tous les 15 jours et ça parle de product management. Mais en pas trop chiant quand même. Enfin, on essaye.
Bon, par contre, là, faut vraiment y aller maintenant.